Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous sommes heureux de vous retrouver cet après-midi pour parler Bana Okapi. Ce magazine de jeunes et plus jeunes traite des questions liées à l'environnement, la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et la protection des droits de l'enfant. La campagne internationale 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres a débuté le 25 novembre dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et se termine le 10 décembre, date de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Bana Okapi de ce jour fait un focus sur les violences dont sont victimes les jeunes filles du fait de leur genre. Ce magazine vous donne l'opportunité d'entendre les filles parler de leur vécu, mais aussi d'écouter les sages conseils et propositions pertinentes de nos invités qui sont pour la plupart experts dans la lutte contre les violences. Sarah Soumbel est à la présentation de ce magazine, mise en onde de Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, une réalisation de Stanislas Diomi, sous la supervision de Jean-Marc Matuakimo Felili Dijano. Puisque le menu est déjà connu, ouvrons le bal de ce magazine. Merci de rester à l'écoute de votre magazine préféré qui vous parle de comment lutter contre des violences commises à l'égard des filles. En effet, le monde célèbre une campagne internationale qui se tient chaque année et vise à prévenir et éliminer les violences liées au genre durant 16 jours. Comme vous le savez, Bana Okapi est un programme de jeunes et plus jeunes. Nous nous penchons donc du côté de la jeune fille pour lui proposer des pistes de solutions adaptées à son âge et son environnement, prenant en compte ses réalités. Dans la ville de Beni au Nord Kivu, certaines jeunes estiment que les droits des filles varient d'une famille à l'autre. Cependant, la communauté doit redoubler d'efforts pour garantir à tous les enfants les mêmes droits. Guylaine Kassassia a rencontré quelques jeunes de Beni. Voici son reportage.
Pour ces garçons, il semble pensable que les filles jouissent de même droit qu'eux au sein de la famille. Selon John Mouissa, une fille ne doit pouvoir accéder à certaines choses comme un téléphone qu'à partir d'un certain âge.
C'est un peu différent, parce que la fille ne peut pas avoir vraiment tout son temps pour aller regarder la télé, tant que la cuisine est là, faire la vaisselle, tout ça, ça prendra. C'est qu'elle peut passer tout son temps à faire des différents travaux. Mais nous les garçons, dès qu'on se réveille le matin, on peut faire des travaux là, on part à l'école, et puis quand on revient, on peut aller regarder la télévision, un peu, mais pas toute la journée, parce qu'il y a aussi les cahiers qui sont là qu'on peut relire encore. La fille n'a pas tous les droits, c'est ça. Comme déjà, une fille peut avoir le téléphone, oui, mais chez nous à la maison, chez nous à la DAR, tant que tu n'es pas encore en 6e secondaire, on ne va pas te donner le téléphone. S'il s'agit de recherche, tu peux venir chez ton frère, tu fais des recherches dans son phone et non qu'on t'achète le phone là chez nous vraiment. Chez nous, c'est comme ça, 6e secondaire. Et bon, les garçons, dès qu'il arrive à 3e comme ça, on peut lui donner le téléphone. Moi, je trouve ça normal parce que les filles, dès qu'elles ont les phones, vraiment, ça devient un peu compliqué à la maison parce qu'elles passent tout son temps à causer sur phone et elles ne trouvent pas le temps de préparer, le temps de faire un peu de différent travail qui se trouve à la DAR.
De son côté, Alexis Mouindo, étudiant à l'UAC Beni, estime que les parents doivent considérer tous les enfants sur le même pied d'égalité car tous ont les mêmes droits.
Bon, en fait, moi, je dirais, dans la famille, étant qu'enfant, garçon ou soit fille, nous devions toujours avoir un même droit, parce que nous tous, nous sommes des enfants. Il ne fallait pas que les garçons puissent faire ça et les filles ne peuvent pas faire ça, parce que nous sommes tous des enfants et nous avons aussi besoin de certaines choses que les autres font. Ça serait comme une discrimination si on disait que les hommes peuvent, par exemple, regarder la télévision jusqu'à 17h et les filles regarderont la télévision jusqu'à 15h. Déjà, ça, c'est une discrimination. Déjà, moi, je dirais que nous avons tous les mêmes droits. Étant qu'enfant, fille ou soit garçon, s'il s'agit de travailler, nous tous nous devons travailler. S'il s'agit de se divertir, nous tous nous devons nous divertir.
Bachir Katolo Guélar va dans le même sens. Pour lui, dans sa famille, qu'il s'agisse de garçons ou de filles, il n'y a aucune discrimination.
Chez nous, on respecte ça, on respecte les filles. Vous savez, nos sœurs, et mes grandes sœurs et mes petites sœurs, ce sont des enfants comme nous. Nous sommes des enfants d'un même père, d'une même mère. Alors, tout ce que moi, on peut me donner, comme les droits d'un enfant, elle aussi, elle a le droit d'en bénéficier. Disons comme les frais de scolarité. Vous savez, si je parle des frais de scolarité, chaque enfant a le droit d'être scolarisé, d'être prendre en charge. Chaque enfant, comme moi, je ne peux pas me permettre d'avoir un téléphone, même si et ma petite sœur n'a pas le téléphone, bien ma grande sœur. Ça vraiment, c'est contre loi. C'était dans des époques là où, lorsqu'on n'était pas encore né, qu'on disait que non, les enfants filles n'ont pas le droit d'avoir même chose que les enfants garçons. Aujourd'hui, le monde change et la technologie avance. Comme le monde change, donc tout le monde, tous les enfants ont le droit d'être bien gérés à la maison. Les travaux, moi je vais parler de ma famille. Tout ce que mes sœurs font, moi aussi je le fais. Comme déjà de préparer. Chez nous, si ma sœur ne se sent pas bien, moi je peux préparer. Parce que je suis mieux formé à ça. Ma maman nous a bien préparé à ça. C'est pas seulement les filles qui peuvent préparer ou bien les civer. Non. Nous tous, on est des enfants et on a le droit de s'entraider.
Charline Katungu témoigne que dans sa famille, tous les membres jouissent d'une équité de droits.
En question des droits, respecter les droits des filles, les droits des garçons, ça ne dépend de famille. Moi, dans ma famille, les droits sont respectés parce que tous nous partons à l'école. Faire, les achats, on fait pour tout le monde, les filles, même les garçons. Bon, je dirais que les droits sont respectés. Moi, je dis, ouais, que chez moi, on me laisse parfois la gestion des autres affaires. Mais je sais pas, parce que à la maison, moi, je suis la première fille. Alors, parfois, il y a l'obligation de me faire d'autres trucs à gérer, comme un peu d'argent, la télévision, gérer les enfants. Bon, je sais pas si dans d'autres familles, ça peut se faire, mais chez moi, ça s'est fait. Ben ouais, je te demanderai comment faire les travaux domestiques. Bon, ces derniers temps, il n'y a pas les travaux de choix. Je peux dire, les trucs, travail des femmes et travail des hommes. Ces derniers temps, les hommes peuvent faire tout le travail de la maison, faire la vaisselle, balayer. Donc, on doit s'entraider. Je ne vois pas vraiment s'il y a, non, il se penche vers mon petit frère. Non.
Quant à Dorcas Mungesi Ali, elle souligne que le non-respect des droits de filles est une réalité dans de nombreuses familles. Plusieurs filles n'ont même pas le droit de choisir leur filière, ce qui empêche certaines de poursuivre leurs études normalement.
Je vois, les droits des filles ne sont pas privilégiés en famille. Il y a seulement des privilèges en faveur des garçons. Chez les filles, pas vraiment. Par exemple, pour arriver à la maison, il est dit aux filles d'arriver juste avant 17h, mais les hommes même 21h, 22h, tu es libre, tu peux venir quand tu veux. Et lors d'effectuer des voyages, toi, une fille, tu dois vraiment demander l'autorisation, tu dois vraiment demander même avant, une semaine avant, préparer avant, mais pour un homme, tu peux même demander juste le jour même ne pas demander, tu peux partir et tu viens juste t'informer, bon, j'étais telle part, il n'y a pas de problème. Mais pour les filles, c'est pas le cas. Nous, on nous minimise et pense qu'on n'est pas capable de nous protéger et pense qu'on est vraiment faible. Alors, ils ne croient pas à la capacité que nous avons. La cuisine, c'est seulement les filles. Les hommes peuvent peut-être faire l'entretien de pelouse, juste ça. Mais en cuisine, puiser de l'eau, c'est seulement pour les filles. Donc, il y a des travaux pour les filles et pour les garçons. C'est qu'ils sont réservés uniquement aux filles et uniquement aux garçons. Bon, les filles, alors, nous, on se fatigue plus que les garçons. Et quand il s'agit peut-être de la nourriture aussi, au privilège aussi les garçons. Au moment que c'est toi qui as travaillé dur, tu as préparé, tu as fait la vaisselle, tu as torchonné, tu as fait tout. Mais quand il s'agit de distribuer la nourriture, on va privilégier les garçons, on va donner peut-être les garçons beaucoup que toi qui as fait beaucoup de travail. La gestion, c'est souvent les garçons. Par exemple, quand les parents veulent voyager, ils laissent la responsabilité aux garçons. Mais quand c'est chez les hommes, bon, il y a une difficulté. On t'a laissé, par exemple, on a laissé 30 dollars pour une semaine, mais avec les hommes, ça sera difficile. Pour une semaine, vous allez utiliser les 30 dollars, par exemple, dans 4 jours. Donc, ils ne savent pas comment gérer cet argent. En conclusion, je peux dire que le droit de la femme et de la jeune fille n'est pas respecté vraiment. On privilégie souvent les garçons que les femmes. Mais dans les choix, par exemple, des facultés, moi, personnellement, j'avais choisi une faculté, j'avais dit que je veux faire l'électromécanique, mais à la maison, on m'a dit que non, tu es une femme, tu peux pas faire ça. Bon, j'ai fait l'université, mais c'est pas le choix de la faculté que moi, je voulais, mais on a choisi pour moi. Mais quand c'est un homme à la maison, il choisit ce qu'il veut, mais quand c'est une femme, on te désoriente dans ce que tu voulais faire. Et ça affecte beaucoup parce que je viens faire ce que je n'aime pas. Et souvent, quand on fait ce qu'on aime, c'est quand tu te donnes vraiment. Quand tu fais ce que tu aimes, tu te donnes vraiment à cette chose. Mais quand on te désoriente comme ça, bon, tu l'es fait. Bon, parce que mes parents m'ont dit d'aller là-bas, bon, je l'ai fait juste comme ça.
Suite à des enquêtes menées dans la région de Beni, Julie Kouna, coordonnatrice de la structure Femmes Congolaises pour le Développement, antenne de Beni, indique que les droits des filles sont respectés à seulement 5%. Elle appelle donc à intensifier les sensibilisations afin de mieux faire connaître les codes de la famille. Beni, Gulen Kassessia, Radio Okapi. Okapi.
Après Beni, rendons-nous à Bukavu pour parler de violences en milieu scolaire et universitaire. Ces violences sont une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui. Les filles, pour la plupart des cas, connaissent ce problème et ont parfois du mal à s'y prendre. Cela mettant à mal leurs études, nous avons rencontré quelques étudiantes qui nous en disent plus dans ce reportage préparé par Rachel Kessembangu.
Agression verbale et chantage de la part des professeurs, ce sont les différentes formes d'agression auxquelles les filles font face à l'université, telles que nous les dit cette étudiante de l'Université catholique de Bukavu. Pour elle, il faut qu'il y ait un suivi méticuleux à l'endroit des professeurs.
Dans le milieu universitaire, ce que moi j'ai remarqué et ce qu'on m'a raconté, c'est que les filles sont sujettes au fait aux agressions verbales principalement de la part de certains professeurs. Et surtout si le prof, il connaît ton nom, il peut faire des manigances, par exemple, mal te corriger, pour que tu sois obligé de venir vers lui pour lui demander des explications, pourquoi tu as fait ça, pourquoi vous avez mal corrigé ma copie et tout. Et c'est par là que je peux dire qu'il t'attrape, au fait. Il commence à te faire des avances, il peut, par exemple, te proposer... De coucher avec lui pour qu'il t'ajoute les points, ou par exemple de faire des trucs au fait pour que tu ailles tes points, ou pour que tu puisses par exemple passer de promotion, ou pour que tu puisses ne pas passer par exemple en deuxième session. Comment y remédier? Déjà, c'est pas facile de trouver ce genre de professeur, vu qu'ils savent que si on les attrape, ils seront renvoyés. Donc il faut être méticuleux, il faut aviser les filles de quand ils sont sujettes à ce genre d'agression, elles le rapportent au fait. Et il faut que la personne à qui on rapporte ça soit sérieuse, parce que elle peut être dans le même coup et donc la fille est dans un cercle vicieux, quoi. Donc il faut un bon encadrement, sensibiliser les filles et aussi mettre une personne qui est capable de défendre ces femmes, principalement une femme, parce que la femme, elle peut comprendre facilement. Et aussi, suivre, en fait, les professeurs. Quand on engage un professeur, il faut connaître son état moral aussi, et suivre aussi les professeurs au fil des années.
Une autre étudiante en deuxième année de doctorat, toujours à l'UCB, pense que cette situation date de longtemps et qu'il est temps que les autorités académiques sanctionnent les auteurs de ces bavures.
C'est une situation qui date depuis longtemps. Depuis déjà à l'école secondaire, on en entendait parler, qu'il y avait de ces femmes ou de ces filles qui se faisaient harceler et qui devaient donner en contrepartie leur corps pour recevoir de points, certains privilèges au niveau de l'université. Et donc, je pense que c'est un sujet un peu compliqué parce que les auteurs de ces actes détiennent souvent un certain pouvoir par rapport aux victimes. Mais par contre, on on voit chez les victimes de ces actes, en fait, qui représentent à la langue des signes de cliniques de choc post-traumatique, et il est difficile d'en parler, déjà que les auteurs forment un corps. Alors, ils sont soudés entre eux. Donc, pour moi, j'ai jamais été victime de ça, mais je connais quand même une dame qui a été victime et quand elle a pris le courage d'aller en parler, ce qu'elle a réussi en retour, c'était un renvoi. Elle a été renvoyée. Donc, moi, je pense que plutôt les autorités académiques devaient prendre en compte cette situation et mettre en place des sanctions considérables à l'égard des auteurs et responsables de ces actes.
Les violences en milieu scolaire et universitaire conduisent souvent les victimes aux échecs. C'est le constat du collectif 2250 qui accompagne les jeunes filles. Armelle Katimbera, chargée du genre dans le collectif.
Dans la province du Sud Kivu, nous avons remarqué beaucoup de choses, que ce soit dans le milieu du travail, le milieu étudiantin. On a compris que les femmes, leurs droits ne sont pas respectés. Et même chose pour la jeunesse, surtout la jeunesse que nous accompagnons dans le collectif 2250. Nous avons les jeunes filles dans le milieu scolaire, dans des universités, qui sont victimes de leur échec, qui sont obligées d'accepter d'échouer, pas parce qu'elles sont moins intelligentes, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé qu'à travers son sexe, elle peut avoir 2 points. C'est tout ça que nous voulons refuser dans cette province. Il y a le travail où il y a beaucoup de sollicitations sur le sexe pour accéder au travail. C'est de tout ça que nous voulons lire. Nous sommes en train de voir les femmes qui circulent avec les petites marchandises. On est en train de les enfermer dans des maisons. Les jeunes filles, on les enferme dans des maisons. On les viole parce qu'elles sont en train de chercher la nourriture pour leurs enfants. Pendant la période de vacances, on a vécu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes venir, on va profiter aussi de ces 16 jours d'activisme pour lutter contre toutes ces violences basées sur le genre.
La coordonnatrice de ce collectif appelle les jeunes filles qui font face à cette situation à briser le silence, à en parler en dénonçant ces actes dans des organisations de protection des femmes ou à la police. Claudine Kitumaini.
À Bukavu, il y a beaucoup d'organisations de femmes qui peuvent accompagner ces jeunes filles pour qu'elles dénoncent. Nous avons aussi la police dans nos quartiers, même si il y a une impunité atroce qui règne dans notre pays. Mais il faut d'abord aller voir ces OPJ pour dénoncer. Si tu vois que rien n'est fait, il y a beaucoup d'organisations de jeunes et de femmes qui accompagnent les femmes victimes de violences basées sur le genre. Le problème est que les filles ne savent pas où dénoncer. Et le problème est que nous avons encore nos coutumes rétrogrades qui continuent à nous envelopper. Et les stéréotypes de la communauté aussi, ces gros mots de la communauté, les filles qui se disent « si je dénonce que j'ai été violée, comment je serai vue dans la communauté ?» Je pense que la première étape, c'est ce que les filles doivent prendre courage, prendre cette question à bras le corps et briser le silence. Parce que si elles commencent à parler de cette question-là, je pense qu'il y aura d'autres filles qui vont suivre et les bourreaux auront de plus en plus peur. Et je pense que ces cycles de violence, on peut les vaincre si les filles commencent déjà à dénoncer. Un appel à toutes les filles de Bukavu et toutes les filles qui me suivent à travers la radio Okapi, je vous demande de briser la peur, de prendre cette question avec sérieux.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à ceux qui nous prennent en cours des diffusions. Sachez que vous êtes à l'écoute de Bana Okapi, un programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF, dédié aux jeunes et plus jeunes. Ce magazine vous parle de comment lutter contre les violences faites aux filles dans le cadre de la campagne internationale de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Dans cette deuxième partie de votre magazine du jour, nous allons suivre des propositions, mieux, de pistes de solutions pour lutter contre les violences faites aux filles, mais aussi en retour, partager des astuces pour prévenir des violences et pourquoi pas aider les filles à se protéger de violences basées sur le genre. Sarah Soumbel est à la présentation de ce magazine, mis en onde de Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, une réalisation de Stanislas Diomi, sous la supervision de Jean-Marc Matuakimo Felele Dijano. Ce magazine est coproduit par Grâce en Vézolo, Rachel Kiesse, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salomou, Gisèle Cage, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Nous lançons cette seconde partie. Comment lutter contre les violences faites aux filles? Chers auditeurs, votre magazine Bano Kapi vous parle et cette fois-ci, nous recevons nos invités. Le premier est Monsieur Stanislas Wanja, directeur, chef d'établissement au collège Saint-Jean Bosco de Kinshasa. Il nous parle de comment les écoles luttent contre les violences basées sur les genres. C'est là déjà au niveau du primaire, avec les méthodes d'intégration tout en faisant comprendre aux élèves l'importance de vivre ensemble dans l'harmonie, sans pour autant tenir compte de genre. Plusieurs établissements évoquent la question de violences faites aux filles dans les leçons de morale dispensées dès l'école primaire. Il est au micro de Grâce Vézolo.
Bonjour, monsieur Stanislas Wanja.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes directeur, chef d'établissement au collège Saint-Jean Bosco à Kinshasa. Aujourd'hui, nous parlons de la manière dont nous pouvons lutter contre les violences faites aux filles. Est-ce que la question des violences basées sur les genres est souvent évoquée dans votre établissement scolaire, directeur?
Effectivement, c'est évoqué et nous l'évoquons en termes pédagogiques afin d'instruire les deux genres pour qu'ils se mettent ensemble dans l'amour.
Comment vous le faites concrètement?
Et pour le faire, nous ciblons plus la leçon de morale. À part la leçon de morale, nous en parlons aussi en religion, mais sinon c'est la morale qui renforce, parce que si on tient compte de la religion, il y a d'autres enfants issus d'autres religions qui ne vont pas prendre ça au sérieux. Donc nous prenons la leçon de morale pour faire voir aux enfants qu'ils sont égaux, malgré la différence de sexe.
À partir de quelle classe que vous évoquez cette question?
Oui, cette question s'évoque à partir de la première. Dès que l'enfant a découvert à la maternelle qu'il est de tel ou l'autre sexe, mais là il est temps de pouvoir l'inculquer pour qu'il puisse considérer l'autre sexe comme égal à lui-même.
Quelle est l'importance que vous accordez à ce sujet?
C'est un sujet d'importance capitale parce que toute la vie de l'enfant en dépend. C'est ainsi que nous renforçons toutes les techniques pour que cela puisse tenir et que ça soit un outil ou alors une façon de vivre au quotidien chez les enfants.
Et quelles sont les méthodes pédagogiques techniques que vous utilisez pour évoquer ces sujets?
Les méthodes, nous cherchons l'intégration. Nous faisons intégrer les enfants dans la société en lui faisant voir que l'autre et lui, malgré la différence de leur sexe, ne sont pas inégaux, en dépit des traditions qu'ils reçoivent à la maison. Mais c'est ça ce qu'il faut retenir, que l'autre est comme lui.
Mais il vous arrive que les élèves filles particulièrement soient traitées d'une certaine manière dans votre établissement scolaire juste parce qu'elles sont filles?
Pas du tout, hein. Ça peut arriver un peu au début de l'année scolaire avec les élèves qui viennent d'autres écoles qui n'ont pas cette méthodologie d'inculcation ou qui n'ont pas cette façon de vivre dans la vie quotidienne. Mais après un mois, d'habitude, ça disparaît parce que celui qui en applique se trouvera émargé.
Et vous en appliquez quand précisément? Les matins, pendant la leçon ou à la fin du cours?
Souvent, nous appliquons cela le matin. Ce sont les premières leçons. C'est après la première leçon, lecture ou alors dictée ou orthographe, directement la leçon qui va suivre de la branche secondaire, c'est la morale. C'est comme ça qu'on atteint, parce qu'on ne peut pas enseigner pendant que l'enfant est déjà fatigué. Il faut que ça commence dès le matin.
Et quel est le retour que vous obtenez après avoir dispensé ces cours pendant un mois?
Oui, nous trouvons une bonne ambiance d'abord, parce que tout le monde, que ce soit le féminin ou le masculin, se comporte en étant ensemble et il y a bonne ambiance. En tout cas, il n'y a pas de discrimination ni mauvais traitement d'un sexe par rapport à l'autre.
Vous, en tant que directeur chef d'établissement, certainement vous êtes le premier observateur de votre école. Comment les élèves garçons se comportent généralement envers les élèves filles?
Bon, ils se comportent d'une façon acceptable parce que après avoir eu ce rudiment, ils savent qu'ils sont le même et il y a bonne ambiance. L'autre ne traite pas l'autre par rapport à son sexe, mais il se traite en égaux. C'est comme ça que parfois je me réjouis tellement de constater que ce que je suis en train d'inculquer porte de fruits.
Et comment faites-vous concrètement pour protéger les élèves filles des violences basées sur les genres?
Pour les protéger, c'est inclus dans le règlement d'ordre intérieur. Et il y a des articles spécifiques qui sont là en train de défendre la mauvaise traitance par rapport au genre, surtout les filles.
Si une élève fille est victime d'une violence quelconque de la part d'un élève garçon, qu'est-ce que vous faites exactement?
Oui, c'est l'article qui le rattrape. Il est pieds au piège et nous lui rappelons ce qu'il a manqué faire. Et du coup, s'il y a sanctionné, ça va, mais d'abord, nous récupérons son état d'esprit pour qu'il ne puisse pas revenir. Parce que tenir compte de la sanction seulement, l'enfant peut s'habituer à une sanction et il devient récidiviste parce qu'il est habitué à la sanction. Mais nous cherchons à récupérer le moral de l'enfant pour qu'il ne revienne plus.
Comment récupérer la morale de l'enfant?
En lui faisant voir que l'autre féminin est égal à lui. Donc, il n'y a pas à faire de discrimination. Autrement, c'est lui-même qui se discrimine parce que ce n'est pas ce que nous demandons aux enfants de se comporter par rapport aux filles. Et quand l'enfant comprend, parce qu'à l'inculquant, il comprendra lui-même qu'il a mal agi et que c'est lui-même qui va nous promettre qu'il ne le fera plus. Ce n'est pas nous qui lui demandons de ne plus faire, mais lui-même va parler qu'il ne fera plus. Et c'est comme ça que nous le récupérons.
En associant certainement les parents dans la prise de cette décision?
Notamment, nous devons associer les parents parce que nous vivons avec les enfants pendant 8 heures et les restes des heures sur les 24, ça va se passer à la maison. Et si nous n'associons pas les parents, nous ne faisons pas un travail qui peut porter de bons fruits. Sinon, il y aura l'hypocrisie des enfants. Lorsqu'il vient à l'école, il se comporte autrement et quand il va rentrer à la maison, il se comporte autrement. Donc, nous associons les parents pour que ce travail-là puisse porter réellement de bons fruits. Cela constitue ce que nous donnons chez les enfants. Par rapport à la morale, c'est du savoir-être. Alors comme c'est le savoir-être, nous nous associons à la récréation pour les surveiller, voir comment ils réagissent, malgré que c'est le moment libre où chacun doit nous permettre de le connaître. Mais sinon, par rapport à ce que nous nous enseignons, les cas sont tellement isolés que quand nous remarquons, nous n'attendons pas, nous interpellons immédiatement l'enfant pour pouvoir le redresser.
Vous avez fait beaucoup d'années en tant que directeur chef d'établissement au collège Saint-Jean Bosco. Est-ce que vous avez eu un cas pareil sur les violences faites aux filles, particulièrement dans votre école? Si oui, comment avez-vous géré ces cas?
Avoir de tels cas, non. Mais sinon, des signaux avant-coureurs, nous le remarquons, mais directement, nous cherchons à récupérer l'enfant. Et nous arrêtons et c'est fini. On n'arrive pas à des cas presque flagrants qui peuvent gêner.
Quels sont les signaux que vous avez remarqués?
Lorsque les enfants jouent, vous allez voir que l'autre enfant peut avoir tendance à profiter de jeu pour toucher les parties intimes de filles. Et à ce moment-là, directement, nous intervenons pour arrêter ce cas.
Comment vous intervenez?
Nous intervenons en interpellant l'enfant, les deux d'ailleurs, pour conscientiser le masculin qui a agi et pousser au féminin de pouvoir dénoncer le cas immédiatement que cela arrive. De ne pas attendre que nous puissions découvrir, mais quand ça vient, vous venez directement au bureau puis dénoncer le cas pour qu'on trouve des solutions idoines.
Est-ce que les cours d'éducation à la vie est-il dispensé?
Exactement.
Est-ce que ces cours peuvent aussi contribuer pour lutter contre les violences faites aux filles?
Oui, c'est un cours qui se donne, mais ça contribue aussi. Ça contribue, mais ça dépend aussi de l'enseignant. L'enseignant doit être bien formé. Si l'enseignant n'est pas bien formé, il risque de détourner le sens de ce cours. Et là, nous prenons des dispositions pour que l'enseignant d'abord soit mieux formé pour qu'il cherche à atteindre seulement l'objectif, au lieu de se divaguer à autre chose qui ne cadre pas ou qui risque de susciter d'autres inquiétudes chez le comportement de l'enfant.
Ce cours est dispensé en quelle classe précisément dans votre école?
C'est un cours qui doit être donné de première en sixième. Et c'est comme ça, parce qu'il y a le degré élémentaire, il y a son programme, le degré moyen et le degré terminal. Et ça se donne partout. Et quand ça se donne, ça aide beaucoup. En ajoutant la leçon de morale, en tout cas, c'est là où nous avons trouvé beaucoup de réussite là-bas.
Est-ce qu'il y a un message à lancer sur ces sujets?
Oui, le message, que c'est la conscientisation. La conscientisation, d'abord, aux autorités d'aider les écoles à s'approprier du programme de l'éducation à la vie, ainsi que le programme de la leçon de morale, parce qu'en le dispensant, nous allons changer cet état d'esprit de discrimination entre les gens. Et aux enseignants, de prendre au sérieux ce cas pour que nous puissions mettre la main dans la pâte afin de pouvoir redresser le niveau de ces jeunes enfants qui sont en train d'émerger. Donc ils savent non pas seulement les mathématiques et les français, mais qu'ils aient la capacité de savoir être dans la société. Et aux enfants de prendre au sérieux ce qui sont leur est dispensé et de pouvoir pratiquer cela dans leur vie de tous les jours, afin de devenir les citoyens utiles à la nation. Et aux parents, de nous soutenir pour qu'il n'y ait pas de contre-coup. Donc nous disons autre chose et vous là-bas à la maison, vous dites autre chose. Vous voyez que l'enfant risquerait de se trouver entre le marteau et l'enclume et il ne saura même pas sur quel pied danser. Soutenez rien que ce que nous enseignons aux enfants. Pour cela, les enfants seront sur la bonne ligne de conduite dans leur vie de tous les jours.
Monsieur Stanislas Wanja, je rappelle que vous êtes directeur chef d'établissement au collège Saint-Jean Bosco à Kinshasa. Nous vous remercions pour avoir répondu à toutes nos questions.
C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à cela parce que le monde est en train d'évoluer, parfois négativement, mais vous avez pensé à cela et nous vous avons répondu que ceux qui nous écoutent en profitent pour l'émergence des enfants.
Okapi, encore plus d'infos.
Comment lutter contre les violences faites aux filles? Le collectif 2250, mouvement ayant en son sein 50 organisations, milite pour le respect des droits des jeunes et principalement des jeunes filles. Pour ce collectif, on ne peut parler de violences faites aux femmes sans parler des filles, car avant d'être femme, on est d'abord fille. Claudine Kitoumaini, coordonnatrice du collectif, revient sur les sensibilisations qu'organise cette structure pour que les filles brisent le silence en dénonçant les abus auxquels elles font face. Elle s'entretient avec Rachel Kessembangou.
Madame Claudine Kitoumaini, bonjour.
Bonjour madame.
Que fait votre organisation pour lutter contre les violences faites aux filles?
D'abord, je m'en vais vous dire que le collectif 2250, c'est un mouvement des jeunes qui a à son sein 50 organisations des jeunes qui plaident pour le respect des droits des jeunes, surtout des jeunes femmes. Et moi, je suis membre du collectif 2250 à travers notre organisation, la Prenelle RDC, qui est le leader de ces collectifs pour cette année. Et du coup, ces organisations de jeunes milite pour que les droits des filles soient aussi reconnus en République démocratique du Congo. Parce que depuis qu'on a commencé le LID pour les droits des femmes, il n'y a que des femmes, en tout cas établies, qui sont impliquées dans le LID. Et nous, en tant que jeunes, nous avons vu qu'on ne peut pas parler femme sans fille. Parce qu'avant de devenir femme, on est d'abord fille. Et les filles étaient mises de côté. Alors nous, en tant qu'organisation de jeunes, nous nous sommes dit pourquoi ne pas nous impliquer aussi en tant que jeunes et aider les jeunes filles à intégrer aussi ces mouvements, ces organisations de femmes qui plaident pour le droit des femmes. Parce que quand on parle de violation de droit des femmes, on voit aussi les filles. Ce n'est pas seulement les femmes établies qui sont violées. Ce n'est pas seulement les petits-enfants qui sont violés ou qui sont victimes de toutes sortes de violences basées sur le genre. Il y a des jeunes filles qui sont très impliquées. Il y a des jeunes filles qui sont des grandes victimes de tous ces actes de violence qui sont commises à l'égard de femmes. Alors nous, en tant qu'organisation, nous faisons une sensibilisation avec des jeunes filles pour qu'elles prennent conscience des dangers, pour qu'elles comprennent qu'elles doivent aussi briser les silences, qu'elles doivent braver la peur pour intégrer aussi ces mouvements, pour être aussi les défenseurs de leurs droits. Parce que ce ne sont pas seulement les femmes qui doivent toujours être derrière la lutte chaque jour. Et c'est comme ça que la Prinelle RDC, dans les mouvements collectifs 2250, qui est un mouvement des jeunes autour de l'agenda jeunesse, pays, sécurité, rencontre des jeunes garçons comme des jeunes filles pour leur parler des questions de droits des jeunes filles, pour leur parler des questions de respect des droits de tout le monde et amener notre communauté à être une communauté où l'égalité des chances, l'égalité des sexes est respectée.
Quels sont les différents types de violences le plus fréquents chez les filles?
D'abord, chez les filles, il y a la discrimination. Les filles ont du mal à accéder à l'emploi. Lorsque les filles partent chercher de l'emploi, au lieu de voir une personne intelligente qui peut travailler, qui a des compétences, on sexualise la femme. À première vue, on voit d'abord une femme qu'on va commencer à... une pute, quoi. Et toutes les jeunes filles qui sortent de l'ordinaire, toutes les jeunes filles qui fournissent de l'effort pour travailler, on voit en elles des femmes, des objets sexuels, au lieu de les prendre comme des personnes à part entière. Il y a aussi la participation politique. Dans la lutte, on voit qu'il n'y a que les femmes établies qui sont derrière cette demande de participation de femmes dans la gestion de la chose publique. Mais la jeune fille n'est pas très impliquée. C'est comme ça que nous, on s'est dit que comme la jeune fille n'est pas très impliquée, alors qu'il y a des jeunes filles qui ont beaucoup de compétences, pourquoi ne pas les conscientiser et les amener à faire partie aussi de ces mouvements d'élite qui demandent que les jeunes filles, comme les femmes, comme les hommes, participent aussi à la gestion de la chose publique. À part cette participation, il y a aussi des cas de viol. Ici, chez nous, à l'est de la RDC, nous sommes dans la guerre depuis plusieurs décennies. Et quand il y a des viols sur des femmes, parce que les viols est utilisé chez nous comme une arme de guerre, quand les femmes sont violées, les filles ne sont pas laissées à côté. Il y a des filles qui ont été violées, il y a des filles qui continuent à être violées, il y a des filles qui continuent à être jusqu'à présent des victimes de viols parce que peut-être... Quand on sensibilise, on ne parle que de la femme en oubliant qu'il y a la fille qui est aussi là et qui est victime de ces viols et de toutes sortes de violences. Il y a des filles qui subissent des violences domestiques. Tu vois les filles qui travaillent dans des maisons comme des bonnes. Ce sont des filles qui sont victimes de viols parfois par leur boss. Il y a des filles qui sont victimes de toutes sortes de violences par leur boss, femme comme homme. Et ces filles ne savent pas parler parce qu'elles n'ont pas commencé la lutte. Et peut-être que quand on parle des violences faites aux femmes, on ne fait pas allusion à toutes ces filles-là. C'est pour ça que nous, en tant qu'organisation des jeunes, on a fédéré toutes ces filles et on cherche comment trouver des solutions à tous ces problèmes que connaissent ces jeunes filles dans la communauté. Il y a aussi une question de consentement. Tu vois, l'âge de la majorité sexuelle ici chez nous, c'est à partir de 18 ans. Mais il y a des jeunes filles qui ne sont pas consentantes, mais qui subissent quand même de viols de la part de leurs petits amis ou d'autres membres de la communauté. Parce qu'on a été éduqués d'une manière où les filles ne savent pas se battre, les filles, on disait qu'elles devaient rester à la cuisine. Alors, une fille peut ne pas être consentante et subir quand même des relations sexuelles alors que d'elle-même, elle n'a pas accepté et n'a pas consenti. Ça, c'est une autre forme de violence et qui n'est toujours pas dénoncée, qui n'est toujours pas dit dans la société. Il y a beaucoup de filles qui sont violées parce qu'elles ne sont pas consentantes. Il y a cette question des jeunes, en tout cas des jeunes filles trop jeunes, entre 13 et 18 ans. On a constaté qu'elles ont des rapports sexuels. Qu'elle soit consentante ou pas, ça c'est le viol. Et ici chez nous, c'est un fait qui est punissable. Et là, nous commençons maintenant à sensibiliser ces jeunes sur ce que dit la loi dans notre pays et tous les documents qui ont été ratifiés par notre pays par rapport à cette question-là des violences faites aux femmes et aux jeunes filles.
Pensez-vous que la situation de la jeune fille évolue avec le temps? Est-ce qu'il y a de moins en moins de violences à l'endroit des filles ou un peu plus?
Bon, je dirais qu'il y a des avancées parce que les filles commencent déjà à prendre conscience, parce que les jeunes filles savent déjà, la plupart savent déjà qu'elles ont des droits comme des femmes et elles intègrent la lutte, même si ce n'est pas toutes les filles, mais en tout cas, elles sont en train de comprendre, elles sont en train de prendre conscience parce que tu ne pouvais pas voir auparavant une fille qui a les leads, je dirais, d'une organisation, une fille qui part sensibiliser les gens contre les violences sexuelles, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un petit changement et il y a des filles qui commencent à s'impliquer et on sent que les jeunes garçons aussi commencent à comprendre et désormais, je pense que les changements ne peuvent pas être radicaux, c'est un processus et je pense qu'avec les temps et comme les jeunes ont mis la main sur cette sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles, je pense que d'ici là, il y aura un changement et on espère voir des filles qui ont compris qu'elles ont des droits et qu'elles vont défendre ces droits-là.
Les jeunes filles commencent à apprendre, elles commencent à être sensibilisées, mais est-ce que la jeune fille congolaise est assez renseignée sur la question des violences basées sur les genres?
C'est ça le plus grand problème parce que Dans notre société, on nous envoie à l'école et à l'école, en tout cas, on n'entre pas en profondeur sur ces questions-là. Les violences basées sur le genre, on en parle superficiellement et du coup, les filles grandissent et ne savent pas que même dans leur famille, elles subissent des violences basées sur le genre. Mais maintenant, comme il y a beaucoup de sensibilisation, je pense que nos mamans qui ont commencé la lutte avant nous, toutes les femmes établies qui ont commencé la lutte avant nous, devraient intensifier la vulgarisation de lois sur la protection de jeunes filles, devraient intensifier la sensibilisation dans des communautés par rapport à toutes ces questions-là des droits des jeunes filles. Parce que moi-même, quand je grandis, je ne savais qu'il y avait les droits des filles. Je savais que la fille devait servir ses frères. Je savais que la fille devait des fois se sacrifier pour que ses frères étudient. Je savais que la fille devrait peut-être rester à la maison pour que ses frères aillent s'amuser, aillent faire les loisirs, aillent faire toutes choses qu'ils doivent faire. Et que moi, en tant que fille, je devais rester à la maison et attendre qu'elles soient là et que je les serve. Mais maintenant là, je pense que comme on est en train de comprendre un peu que la jeune fille, c'est elle qui va devenir la femme de demain, il y a les gens qui ont pris conscience et je pense que, en tout cas, je crois fort comme fer que bientôt, dans 3 ou 4 ans, les filles vont prendre conscience et elles vont être sur la première ligne dans la défense de leurs droits et participer activement à la gestion de la chose publique.
Pour ces jeunes filles qui vous suivent à travers Radio Cap, que faut-il faire pour dénoncer une violence dont on a été victime?
À Bukavu, il y a beaucoup d'organisations de femmes qui peuvent accompagner ces jeunes filles pour qu'elles dénoncent. Nous avons aussi la police dans nos quartiers, même si il y a une impunité atroce qui règne dans notre pays, mais il faut d'abord aller voir ces OPJ pour dénoncer. Si tu vois que rien n'est fait, il y a beaucoup d'organisations de jeunes et de femmes qui accompagnent les femmes victimes de violences basées sur le genre. Le problème est que les filles ne savent pas où dénoncer. Et le problème est que nous avons encore nos coutumes rétrogrades qui continuent à nous envelopper. Et les stéréotypes de la communauté aussi, ces gros mots de la communauté, les filles qui se disent « si je dénonce que j'ai été violée, comment je serai vue dans la communauté ?» Je pense que la première étape, c'est ce que les filles doivent prendre courage, prendre cette question à bras le corps et briser le silence. Parce que si elles commencent à parler de cette question-là, je pense qu'il y aura d'autres filles qui vont suivre et les bourreaux auront de plus en plus peur et je pense que ces cycles de violence, on peut les vaincre si les filles commencent déjà à dénoncer. Un appel à toutes les filles de Bukavu et toutes les filles qui me suivent à travers la radio Okapi, je vous demande de briser la peur, de prendre cette question avec sérieux. Le fait de ne pas consentir et d'avoir des relations sexuelles forcées, c'est une violence. C'est d'ailleurs un viol. Là, il faut prendre tout son courage et aller dénoncer. Si vous avez peur de dénoncer vous-même, passez dans les organisations de femmes. Il y a la Prunel qui est là, il y a les collectifs 2250 qui est là, et je vois AFEM accompagner de femmes. Pourquoi ne pas aller voir toutes ces organisations-là et dire que j'ai été victime de viol, j'ai été victime de harcèlement, j'ai été victime soit de violences domestiques. Commencez d'abord à dénoncer et là, on va espérer à un changement. Parce que si on s'était, les bourrons vont continuer à dire que les filles acceptent aussi qu'on continue à le violer. Mais si on commence d'abord par dénoncer, je pense que les bourreaux auront peur et on va changer la donne dans notre communauté.
Pour finir, madame, qu'attendez-vous de l'État congolais en ce qui concerne les cas des violences dont sont victimes les filles?
Je demande à l'État congolais d'accélérer les processus, surtout à la justice, d'accélérer les processus de condamnation de bourreaux lorsqu'il y a de preuves qu'ils ont violé les droits des filles. Parce que, tu vois, avec notre justice aujourd'hui, tu peux déférer quelqu'un en justice parce qu'il a commis un viol, mais le lendemain, tu les vois encore circuler autour de toi dans les quartiers. Du coup, les jeunes filles, les femmes ont peur. Parce que peut-être ils sont menacés, intimidés par la personne qui les a violés, parce que peut-être il a le pouvoir, il a le pouvoir, parce que peut-être il a de l'argent. Le fait que vous les dénoncez aujourd'hui et demain vous les voyez encore tourner autour de vous, peut-être qu'on a peur. Mais ce que je demande à l'État congolais, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui a été pointé du doigt, que les enquêtes sérieuses soient faites et que si on trouve que la personne est un bourreau, qu'on les condamne, qu'on ne les laisse plus rentrer dans la communauté pour continuer à faire peur aux gens ou à continuer à commettre ces atrocités, ces actes de viol ou de violence envers les filles. En tout cas, l'État a un grand travail à faire parce que si aujourd'hui il y a ce silence qui règne, si aujourd'hui les victimes ne dénoncent pas, c'est quelque part, il y a notre État, notre justice qui est défaillante et qui ne prend pas au sérieux cette question de viol. Je vais, peut-être que ça va t'étonner, j'étais hier à Kadutu pour la sensibilisation chez Kibongé. Et il y a un homme qui vient qui me dit, vous sensibilisez, mais est-ce que vous savez que ici chez nous, il y a encore des OPJ qui encouragent les arrangements à l'amiable? Il y a une fille de 12 ans qui a été violée par un jeune garçon de 25 ans et on a exigé à la famille du bourreau de payer 2000 dollars et de payer à la police 800 dollars et laisser les bourreaux continuer à rester dans les quartiers sans les juger, sans les condamner, alors qu'il y avait de preuves que cette jeune fille a été violée. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle va faire une autre qui sera violée demain? On va seulement demander de réparer, d'arranger à l'amiable et le cycle va continuer. En tout cas, moi je demande à la justice d'être sérieuse. Toutes ces personnes qui ont été déférées devant la justice pour des questions de viol, des violences des droits des femmes, qu'elles soient punies sévèrement pour mettre fin à ce cycle de violence en République démocratique du Congo et surtout à l'est de la RDC où les jeunes souffrent par ces affres de la guerre.
Madame Claudine Kitumaini, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Chers auditeurs et auditrices, je rappelle que nous parlons de comment lutter contre les violences faites aux filles à l'occasion de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre. Notre deuxième invitée est Madame Rosette Disachi, psychologue clinicienne et experte en question de genre du Help Me Group qui œuvre dans la santé mentale. Elle nous parle des cas fréquents de violences faites à la jeune fille congolaise et nous fait quelques propositions pour lutter contre ces phénomènes. Elle s'entretient donc avec Jeff Opela.
Madame Disachi Rosette, bonjour.
Bonjour Monsieur Jeff.
Pouvez-vous nous expliquer en des termes plus simples qu'est-ce qu'est la violence basée sur les genres?
En des termes très simples, la violence basée sur le genre, ce sont des actes commis par des tierces, par des proches, par des personnes de l'entourage sur une personne et qui la prive de ses capacités, qui la prive de ses droits, qui la prive de ses opportunités et qui la prive aussi du droit d'agir en tant que telle, telle qu'elle est.
Mais vous, en tant qu'expert de la question du genre, avez-vous déjà connu des cas de violence basée sur le genre dont sont victimes aujourd'hui les jeunes filles?
Oui, en tout cas, il y a beaucoup de cas et il y en a de plus en plus au fur et à mesure que nous avançons dans les générations, dans la jeune génération, il y a de plus en plus de cas de violence que nous constatons vis-à-vis de la jeune fille.
Alors, quels sont les cas les plus fréquents de ces violences dont les jeunes filles de la RDC sont victimes?
Il y a par exemple des cas des abus sexuels, on en a aussi. Il y a des violences verbales, il y a des violences émotionnelles, des violences économiques aussi. En tout cas, il y a plusieurs types de violences que nous constatons, violences psychologiques au sein de cette population. C'est des cas très fréquents et qui arrivent très régulièrement. La RDC est aussi concernée par ce genre de cas.
Avez-vous déjà proposé des solutions adaptées à la jeune fille congolaise pour lutter contre les violences? Si oui, lesquelles?
Alors, nous sommes allés sur le domaine éducatif. Donc c'est vraiment dans le domaine des sensibilisations,
sensibilisation de la jeune fille et du jeune garçon aussi, parce que la personne qui exerce la force et qui prive du droit ou qui, voilà, tel que nous avons expliqué au début, c'est aussi le jeune garçon et voire même aussi certaines femmes qui répètent les mêmes actes sur les jeunes filles. Alors c'est vraiment du côté éducatif que nous nous sommes penchés. L'éducation de la jeune fille dans les écoles, l'éducation, donner la connaissance, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leurs droits, ce qui fait que certaines autres personnes leur privent de leurs droits ou écrasent leurs droits. Donc nous allons dans l'éducation, parler à la jeune fille, parler aux jeunes garçons. Nous allons aussi dans la sensibilisation au niveau des écoles, au niveau des médias aussi, ainsi que à travers des conférences qui permettent à la jeune fille d'être suffisamment informée sur les différentes violences basées sur le genre et à partir de là, l'acteur sachant que le droit doit être respecté se trouvera dans la difficulté de priver l'autre ou d'opprimer l'autre, et la personne opprimée va rechercher à récupérer ses droits et à mettre fin à cette oppression.
Parce que vous parlez de l'éducation, pensez-vous que ces violences sont le résultat d'une mauvaise éducation des auteurs de ces infractions?
Alors, mauvaise éducation, entre autres, oui, mais pas seulement. Mmh. Parce qu'il y a aussi la culture qui peut intervenir, il y a aussi des problèmes psychologiques qui peuvent intervenir, des problèmes psychologiques liés à des environnements, à un environnement familial ou social malsain. Mmh. C'est vrai que l'éducation a un impact, joue aussi dans l'expansion des cas de violence, mais également l'état mental, la culture, l'environnement. Le stress, par exemple, rend les personnes de plus en plus violentes. Par exemple, dans les milieux dépourvus, dans les milieux à revenus très faibles, on constate un plus grand taux de violence que dans les milieux nantis, par exemple. Bien que ça existe dans les deux milieux, mais les cas vont être plus élevés dans ce genre de milieu à cause des facteurs de stress et de l'état psychologique des personnes. Donc il n'y a pas que l'éducation, mais aussi c'est une affaire de santé mentale et une affaire culturelle aussi.
Oui, Madame Rosette Chachi, comment les familles devraient aujourd'hui traiter la question des violences basées sur le genre?
Puisque les violences ont un impact négatif sur l'individu, toute forme d'oppression, toute forme de privation d'un droit a de l'impact sur l'autre. Et donc parfois on n'est pas conscient de cet impact jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il cause vraiment des dégâts. Et donc moi je pense que aller vraiment sur l'éducation des familles en mettant en avant l'impact négatif que ces violences basées sur le genre ont sur ces jeunes filles et sur tout individu, à ce moment-là, je pense que ça peut réveiller la conscience des familles qui auront pour rôle de protéger les siens de ces violences-là plutôt que d'être acteurs.
Alors, quelle est la part de responsabilité de l'État congolais en ce qui concerne ces violences faites aux filles?
Effectivement, l'État congolais a également une responsabilité parce que dans la lutte contre les violences, il n'y a pas que les familles, il n'y a pas que les individus, ni les institutions sanitaires. Il y a également l'État qui, à son niveau de prise de décision, peut prendre des décisions, par exemple dans le domaine juridique, pour pouvoir punir les auteurs, initier aussi des stratégies d'éducation à la population pour mettre fin à ces violences-là vraiment à un niveau supérieur. Par exemple, dans l'éducation à la vie, dans les écoles, on peut aussi initier des leçons qui parlent des violences afin de mettre au courant, de donner la bonne information et que nous assistons à une réduction par la connaissance. Mais tout ça, ce sont des stratégies qui peuvent se prendre
au niveau politique.
Madame Rosette Dissachi, avez-vous un message à lancer aux jeunes filles congolaises en rapport avec ces 16 jours d'activisme où le monde lutte contre les violences basées sur les genres?
J'aimerais dire à chaque jeune fille qu'elles sont spéciales, qu'elles sont compétentes, qu'elles ont des droits et qu'elles ont également, en particulier, ce droit d'être à l'aise, épanouie dans la société, de permettre de jouir de ce qui leur a été donné comme opportunité, et qu'il n'y a personne qui peut leur en priver. Donc à chaque jeune fille d'aller de l'avant, de lutter ensemble afin de trouver une solution pour mettre fin à cette lutte. Donc qu'elle se lève et également qu'elle prenne conscience de qui elle est. Parce que si elle ne sait pas qui elle est, on lui privera de ce qui lui est droit sans qu'elle ne sache. Et elle va se résigner à un petit morceau de gâteau alors que c'est peut-être la moitié du gâteau qui lui est aussi offerte. Donc la jeune fille, je l'éveille à la prise de conscience, à lutter et aussi à se former, s'informer, afin de bénéficier de connaissances qui vont la construire pour la lutte contre les violences basées sur le genre.
Et vous pouvez placer un mot sur la dénonciation. Aujourd'hui, les filles ont peur des dénonciations. Quel est votre avis?
Et je crois qu'actuellement, c'est l'une des très grandes difficultés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Les femmes ne dénoncent pas, elles ont peur de dénoncer. C'est très important de dénoncer pour recadrer et permettre à la personne de jouir de ses droits. Comment est-ce qu'on va être, par exemple, dans une famille où une jeune fille subit des abus de la part d'un membre du ménage, mais est obligée de vivre dans ce ménage jusqu'à ce qu'elle soit indépendante? Elle ne peut pas dénoncer. Celles qui dénoncent sont rejetées, non pas par les membres du ménage, parfois c'est toute la famille, même la famille élargie, les amis de la famille. Bref, la société n'est pas encore prête à accueillir les dénonciations. C'est pour ça que la femme doit aussi elle-même se mettre dans la lutte, ensemble, avec les hommes, pas seule, dans cette lutte. C'est une lutte collective, ce n'est pas une lutte à chaque jeune fille individuellement. C'est une lutte collective et ça passe par la dénonciation aussi. Donc si la population, la collectivité, la société accepte et soutient la jeune fille qui dénonce, je pense que ça changerait beaucoup de choses.
Madame Rosette Dissachi, merci vraiment pour le temps que vous nous avez donné, un temps si précieux.
Merci à vous aussi, Monsieur Jeff.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Comment lutter contre les violences faites aux filles? Pour finir, nous recevons pour vous les juristes avocats au barreau de Kinshasa Matete, Maître Cédric Luto Lupembe, qui nous parle de la loi congolaise en ce qui concerne les violences faites aux filles.
Maître Cédric Luto, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en des termes plus simples qu'est-ce qu'est la violence basée sur les genres?
En fait, depuis la seconde moitié du siècle passé, il s'est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle qui justifie le plus souvent par des intérêts d'ordre économique, social et politique. Il s'agit particulièrement des violences sexuelles chez nous. Les guerres de 1996 et de 1998 dans notre pays n'ont fait qu'empirer la situation en ce qui concerne les viols et à l'est et autres. Alors, ces victimes ont été atteintes dans leur dignité, leur intégralité physique et morale. Alors, le législateur n'a pas voulu rester muet, soit regarder ce qui se passe, le viol, surtout les enfants militaires, soldats qui violaient les mamans, les enfants et autres. Surtout qu'on parle beaucoup de jeunes filles.
Alors, maître, qu'est dit la loi sur la violence faite à la jeune fille?
La loi numéro 6/019 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 1959 portant code de procédure pénale congolais et la loi numéro 6/018 du 20 juillet 2006 modifiant aussi et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant les codes de procédure pénale à au moins faire quelques innovations au moins pour ne pas laisser ces bourreaux de continuer à violer et à faire ce genre de choses.
C'est ça.
Ok. Alors, suite dans l'article 169 du code pénal congolais, la loi dit ceci, tout acte contraire au mœurs exerçant intentionnellement et directement sur une personne sous les sans le consentement valable de celui-ci constitue viol. Vous comprenez? Donc, dans cet angle-là, on peut comprendre que non, même sa propre femme, s'il ne consente pas à vous le forcer, vous pouvez violer.
Dans ces cas, qui doit-on consulter pour aller dénoncer une violence subie?
Premièrement, d'abord, la victime doit dénoncer. Si c'est, on parle déjà une fille mineure, qui peut soit parler à sa maman, à son oncle, à son père.
Mais au cas où la fille dénonce auprès de sa mère ou a déjà l'expertise du médecin, qui voir au niveau du parquet, qui voir quel est le juge naturel pour pouvoir traiter de ces cas-là?
Bon, ça dépend aussi de l'âge du bourreau, des violeurs. Supposons que si tous les deux, soit filles, soit le garçon, sont mineurs, on va statuer sur eux. C'est le juge pénal qui va au moins statuer. Si c'est une personne adulte, donc un homme avec une fille mineure, c'est le juge pénal qui peut statuer pour condamner. D'ailleurs, la loi parle de quiconque sera reconnu coupable de ces viols sera puni d'une peine de statut de pénal de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Donc, la peine commence à courir de 5 à 20 ans. Donc, on ne peut pas condamner de 1 à 3 ou à 4 ans, non. À partir de 5 ans, ça dépend aussi de l'appréciation du juge et son humeur. Il peut dire, bon, ça va, c'est lui, c'était trop méchant, soit il y a des circonstances aggravantes, je le colle 20 ans, je le colle 10 ans, je le colle 15 ans. Et la loi va encore loin. La loi va encore très loin, dire que, tu vois, dans le cas pareil, on ne peut pas recevoir d'ordre d'un hiérarchie. Oh non, parce que moi, le juge président dit que non, c'est le bourreau, soit celui qui a commis les viols, c'est mon cousin. Je dois au moins les laisser, soit je dois au moins relaxer et la victime. Soit c'est un militaire, soit les policiers, ou le général m'a appelé. La loi interdit. Si un officier, soit un juge, soit un magistrat tombé sur ses coups, chercher à négocier, à libérer, soit recevoir les ATD, quoi, les amendes transactionnelles pour libérer la victime, il sera poursuivi aussi pour cet acte.
Existe-t-il une possibilité de le régler à l'amiable, une infraction, cette infraction qui est commise sur la jeune fille?
Cette infraction ne peut se résoudre à l'amiable. Strictement interdit, la loi interdit. Donc, la loi va encore loin, voire même si l'enfant est mineur, que les parents se donnent le lit, c'est soit notre fille a déjà 14, 15, soit elle est capable de contacter le mariage. La loi dit peut même poursuivre ses parents qui poussent l'enfant mineur dans un mariage forcé. Et ils seront aussi complices de violences basées sur les gens.
Que dit la loi dans les cas où l'auteur de la violence est une personne de la famille ou un tuteur et comment dénoncer?
Il doit être sanctionné. Il doit être sanctionné conformément à la loi. Si la victime est mineure ou soit tu l'es beau, celui qui commet, ça dépend aussi des mineurs parce que déjà un mineur de moins de 14 ans pénalement, il est responsable devant ses actes pénals. Si on dénonce l'action publique et un mouvement, les ministères publics, la personne sera poursuivie, peu importe son actif, que ce soit le père, soit l'oncle, ou soit les grands frères, il sera sanctionné et arrêté. Si on découvrait qu'il y avait un témoin qui ne voulait pas au moins dénoncer, il sera aussi complice. Il sera complice de cet acte. On va l'arrêter et condamner.
Merci, maître. On est arrivé presque à la fin. Un message à adresser à la jeune fille congolaise sur ces sujets?
Vraiment, ce que je peux au moins donner comme conseil à nos jeunes filles, soit à nos jeunes sœurs, de faire très très attention, surtout avec leur habillement. Ça aussi, c'est ce qui pousse aussi beaucoup de bourreaux de s'habiller aussi de ces gens-là. De regarder aussi les milliers, soit des personnes qui fréquentent, et aux parents de veiller beaucoup plus à leurs filles. Parce qu'on ne peut pas laisser sa fille mineure entre les mains d'une personne qu'on ne maîtrise pas. Le monde est tellement ruseux que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment veiller sur nos jeunes filles. Voilà un peu tout ce que je peux donner pour l'enfant.
Merci maître pour votre temps précieux nous accorder.
Merci beaucoup.
Nous remercions Maître Luto Cédric Lupembe, juriste et avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui répondait aux questions de Jeff Opela. Chers auditeurs, c'est par ici que nous bouclons ce magazine Bana Okapi du jour. Nous avons été honorés de vous le présenter. Retenez que ce numéro a été consacré spécialement sur la lutte contre les violences faites aux filles. Plusieurs intervenants ont proposé de pistes de solutions, mais également les filles eux-mêmes se sont exprimées à ces sujets. Ce magazine est à réécouter sur le site de Radio Okapi, www.radiokapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Sarah Soumbel a été à la présentation de ce magazine. Une réalisation de Stanislas Diomi, mise en onde de Diedoni Nyangasa Wanyangasa, sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijano. Restez fidèlement à l'écoute de la fréquence de la paix. À demain.